avec Gaza. Ça change que Nice, on s'aidera pas. Les libraires avec Gaza. Ça change que Nice, on s'aidera pas. Les libraires avec Gaza. Ça change que Nice, on s'aidera pas. Les libraires.
Là, je suis avec les enfants du 12e et vous voulez. Plein de soutien, ça fait longtemps qu'on fait un travail programmatique sur la question de la prédation des groupes et des milliardaires sur la culture et sur les librairies, et aussi évidemment plein de soutien face à la répression policière et aux baisses de subventions qui sont éminemment politiques et incroyablement injustes, et force à tous les libraires qui ont été menacés et victimes de ça. Je ne vais pas vous faire la litanie sur le programme, mais vous pouvez aller consulter. On propose des choses pour lutter contre ça concrètement. Et force à vous et merci encore.
Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra,
Palestine vivra,
Palestine vaincra,
Palestine vivra,
Palestine vaincra,
Palestine vivra.
Juste pour vous rappeler un peu ce qui a été dit, évidemment, on vous invite à répondre à notre appel à témoignage ou à le diffuser autour de vous. Voilà, faites tourner l'information, on n'est pas au stricto sensus que sur Paris. C'est une problématique qui touche l'ensemble du secteur du lit, que ce soit en région, que ce soit dans les Outre-mer également. Voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Merci à tous et toutes de venir soutenir la parole antifasciste. Et surtout, voilà, ayez confiance, on est ensemble, on a l'impression qu'ils sont partout dans les médias, mais n'oubliez pas que la réponse, elle est là, elle est dans la rue, on est fort et fortes ensemble, collectivement. Et... Siamo tutti antifascisti!
Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Et comme vous l'avez compris, je suis un peu voilà, furieusement antifasciste, et au-delà des problématiques qui nous touchent en ce moment dans le milieu de la librairie, voilà, dans vos quartiers, dans vos arrondissements, dans vos établissements scolaires, il y a des gens qui s'organisent déjà, n'hésitez pas à les rejoindre, notamment des collectifs qui se structurent en ce moment, qui s'appellent Éteignons la Flamme, car très bientôt il y a une échéance qui s'appelle les élections présidentielles, quoi qu'on en pense, les fascistes se libèrent, actuellement essayent d'occuper la rue, notamment avec des municipales qui arrivent à Paris aussi également. On est là, on ne lâche pas du terrain. Il y a aussi la table ronde à venir.
Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine!
Free, free, Palestine!
Free, free, Palestine!
C'est les camarades d'urgence, pas du tout.
Ce n'est pas une guerre,
c'est un génocide.
Ce n'est pas une guerre,
c'est un génocide.
Ce n'est pas une guerre,
c'est un génocide.
Bonsoir. J'ai lu Violette en colère, c'est vous.
C'est pas à vos cartes, mais c'est nous.
Ok, je sais qu'elles font l'inventaire là, mais il y a quelqu'un de Violette & Co là ce soir?
Non, il n'y a personne.
Et, vous êtes proche de Violette & Co?
On connaît bien, en tout cas on sait ce qui se passe, mais on n'est pas proche de... On ne connaît pas les libraires de Violette & Co.
D'accord, bon, c'était pour avoir un peu des nouvelles, mais voilà, mais c'est pas grave. Et vous êtes là ce soir pour d'autres librairies ou juste en tant que...
Greg, c'est à toi de jouer.
Bonsoir.
On est du cause commune.
Okay. C'est quoi comme vous cause commune, c'est
quoi? Non, il n'y a pas de souci.
Vous êtes libraire ou...
On est apprenti libraire, là, dans le groupe. On est
l'école de la librairie.
Ouais,
on est tous en alternance dans des librairies différentes.
Ah, super. Et ben, c'est très bien. Vous allez me dire ce que vous pensez de la situation.
Bah, elle est clairement critique, la situation. Enfin, on a des librairies qui sont intimidées par l'État, on a des librairies qui sont vandalisées par l'extrême droite.
Des libraires qui sont harcelés.
Il y a aussi les conditions du droit du travail, on est dans un secteur qui est privé, c'est totalement différent du public. Rien que le fait de syndiquer, c'est compliqué.
Il y a des patrons qui ne se tiennent pas à leurs employés. dans leur décision de faire entendre leur parole politiquement dans les librairies, qui sont quand même des endroits où on peut faire porter une parole via les livres. Voilà.
Et comment vous vivez, par exemple, dans les études ou dans l'apprentissage, l'espèce de dichotomie qu'il y a entre ce qui devient un monopole de plus en plus fort, grand et resserré,
et ce qui reste l'édition indépendante?
Ah, il reste
beaucoup parce qu'il y a un foisonnement. Hein,
Honnêtement, c'est bien parce qu'il reste beaucoup de l'édition indépendante. Il y a beaucoup de maisons d'édition indépendantes qui se sont lancées ces dernières années, qu'on essaye de soutenir individuellement dans nos librairies. Mais c'est clair que le monopole de Hachette et Bolloré est tout de même extrêmement présent dans les librairies généralistes de quartier. Et surtout que c'est de la valeur à la librairie qu'on ne peut pas toutes et tous se permettre d'enlever dans nos librairies du fait qu'on est dans le commerce et qu'on est dans le privé. Donc c'est vraiment petite pierre par petite pierre, mais je suis persuadée qu'on va y arriver.
Et à la fois, il y a des endroits qui existent, qui fonctionnent vraiment différemment, qui essaient de mettre en avant le plus possible les maisons indépendantes, et sans forcément parler de boycott, mais en fait de se rendre compte que si on ne met pas sur table certaines ventes, Sarkozy, des trucs de Bolloré ou, comme il s'appelle, Bardella, en fait, il n'y a pas forcément des clients qui viennent les réclamer, et qu'il faut aussi se rendre compte que tout ça...
Il y a plein de nouveaux publics qui arrivent en librairie, notamment grâce à la bataille culturelle. C'est un truc qui se passe de mot en mot, qu'il faut la faire au cinéma, dans la littérature, dans les arts, dans la musique. Et je pense que ça évolue aussi.
Et que si on impose, ou qu'en tout cas on propose un discours qui est un discours de paix, de respect, avec des valeurs progressistes, en fait les gens, c'est ça qui leur plaît aussi et qui leur va aussi. C'est vers ça que les gens ont envie d'aller. Voilà.
Ok. Et donc là, vous travaillez pas, vous étudiez, vous êtes...
On travaille en librairie.
Et donc où ?
Enfin, dans des grandes,
je veux dire, me semble dire où, dans des petites ou dans des grandes librairies?
Là, on est une quinzaine de camarades pour la promotion. Il y a des camarades qui travaillent à la FNAC, il y a des camarades qui sont en librairie indépendante. Il y en a qui sont en région, qui sont pas que à Paris. Il y en a qui sont en banlieue, il y en a qui sont en SCOP. Il y en a qui sont en librairie indépendante. Il y en a qui sont dans des groupes de librairies. Donc je pense qu'on représente, même si on est des libraires juniors, on représente quand même un peu le panel de toutes les librairies.
La diversité.
C'est ça. Et on essaye
aussi
chacun et chacune de défendre ça.
On montre aussi que peu importe où on travaille, on est beaucoup à avoir de l'ambition à ce niveau-là, de pouvoir changer ce métier, changer la manière dont on pratique ce métier. Et on est quand même dans un moment où c'est critique, quoi, politiquement, ce qui se passe. Surtout, on s'en rend bien compte, nous, dans notre politisation, depuis le collège, depuis le lycée, etc. Et maintenant qu'on est dans le monde du travail, on essaye d'appliquer aussi nos valeurs là où on travaille.
Et j'imagine que vous avez lu Débordé Bolloré. Et dans Débordé Bolloré, il y a une libraire de Lille, je crois.
Tu serais plus de quelle?
Bon, enfin, qui explique que boycotter Bolloré, c'est compliqué. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Parce que en fait, il y a un tel resserrement sur un monopole que dire on prend aucun, on ne vend plus de livres. Voilà, ils font les manuels scolaires, ça couvre. C'est difficile de les boycotter radicalement.
Bah oui, et à la fois en librairie, il y a deux choses. Il y a proposer des livres sur des tables ou dans des étagères, etc. Et puis il y a des commandes que les gens viennent nous faire. Et faut pas oublier qu'on a un métier où on fait du lien avec les gens, et que si les gens ils viennent demander une chose ou une autre, et que nous on a un regard critique dessus en se disant je sais que à qui l'argent va aller à la fin, ou je sais que cette personne est une personne d'extrême droite, la personne que ce client ou cette cliente a envie de lire, on peut aussi établir un dialogue en fait et dire comment est-ce que vous êtes venu à ce livre, est-ce que c'est parce que vous l'avez vu dans telle émission qui appartient aussi à Bolloré, ou est-ce qu'en fait vous vouliez lire un livre sur tel sujet. Et c'est aussi notre travail de pouvoir proposer des alternatives et d'expliciter le plus possible en fait comment ça fonctionne ce monde du livre, comment ça fonctionne cette économie en général, et d'avoir une place là-dedans.
Il y a aussi la question qu'il y a certains livres classiques qui vont avoir plusieurs éditions différentes, et typiquement quand on a des commandes clients, un des trucs qu'on peut faire vraiment à notre échelle quand la clientèle va nous demander tel livre et qu'on ne l'a pas, c'est choisir la maison d'édition. On a le droit de conseiller la clientèle aussi, pas en lui disant c'est Bolloré, nous on veut pas le commander, mais on peut les informer sur le prix du livre, la provenance du livre, et la plupart du temps, enfin en tout cas moi récemment j'ai remarqué que ma clientèle elle était sensible à ça, et que quand je lui dis que c'est telle maison d'édition qui est détenue par Bolloré, ils me disent ah vous en avez pas une autre? et je peux les renvoyer par ça, et ça c'est vraiment un truc qui est positif. Donc il n'y a pas que de la clientèle d'extrême droite qui va acheter 300 bouquins à Lamartine de Sarkozy, il y a beaucoup de librairies indépendantes qui ont cette conscience là actuellement de la sélection des maisons d'édition en fonction des éditions, mais ça reste que sur des textes classiques. Les nouveautés, on peut pas, enfin les offices et les nouveautés, on peut pas vraiment se permettre de boycotter Hachette pour la plupart des librairies indépendantes, parce qu'en fait ça repose tellement un monopole que c'est genre notre chiffre d'affaires, donc voilà.
C'est très bien expliqué dans Déborder Bolloré par cette libraire. Ok, super, mais en fait le livre est passerelle, et en fait ce que vous faites aussi et ce qui peut s'étendre et se conscientiser, c'est que ça ouvre le dialogue et ça permet d'avertir quoi. D'échanger sur des idées.
Bah rien qu'avec Nono Tulle sur table, c'est les petits textes qu'on met dans la plupart des librairies sur les livres qu'on peut mettre en avant. En fait, on peut mettre.
Comment t'appelles ça?
Nous on dit ça des notules, mais je pense que c'est très technique. Mais c'est genre ça peut être des coups de cœur en fonction des librairies. Ça peut être des coups de cœur en trois mots ou alors des petites pages en cinq six phrases. Et rien qu'avec ça, on peut mettre les livres en avant et proposer une littérature différente à la clientèle.
Voilà. Et vous sentez que justement dans ce côté livre passerelle qui crée du lien et qui vous permet de dialoguer, ouais, les gens s'intéressent, il y a une inquiétude, pas tout le monde j'imagine, hein, parce que sinon on le saurait, mais il y a quelque chose qui prend.
Au niveau de la clientèle, il y a clairement une conscience qui se fait. Enfin, je trouve que Déborder Bolloré, c'était un super livre qui est sorti l'année dernière parce qu'il a eu quand même un impact médiatique, même si c'est minime, parce que bah, les médias sont quasiment tous détenus par Bolloré actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui en ont pris conscience que quand on achète maintenant, on finance Bolloré. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont sous Hachette et qui ne s'appellent pas Hachette. Et du coup, là, la clientèle qui n'est pas habituée aux librairies, mais qui est quand même lectrice, elle ne va pas avoir cette habitude-là. Et c'est aussi notre travail, je trouve, de les informer sur la provenance des livres. Et moi, ça m'est arrivé, je ne sais plus quel texte c'était. Je crois que c'était un texte de Bakounine qu'une cliente voulait. Et mon collègue m'a dit, bah, il y a ces deux éditions-là. Il y a une édition qui vient de Bolloré, du coup, même si c'est pas antérieure à quand il a repris la maison d'édition, et à cette édition-là qui est dans une maison d'édition un peu plus indépendante. Et en fait, on l'a juste expliqué mieux que là, je suis en train de vous le faire parce que c'est mon collègue en sciences humaines qui a 10 ans d'entreprise derrière. Mais la cliente, elle était directement « Ah bah, vous me prenez le deuxième ». Il n'y avait pas de réflexion.
Enfin, c'est vrai que quand on lit Bakounine, on peut être quand même sensible à ça.
On peut être sensible à ça, mais ils n'ont pas l'information non plus. C'est ça ce que je vais expliquer.
Voilà. Non, il faut faire de la pédagogie.
Derrière d'autres maisons d'édition, que la clientèle, elle a que les gros noms en tête. Et nous, notre travail, vu qu'on connaît la chaîne du livre, c'est de les informer là-dessus.
Ça fait aussi partie de notre métier. En tout cas, je considère que c'est ça. Et c'est un truc dont on se rend compte, nous tous, dans la formation, en discutant ensemble, que le métier, c'est aussi ça, c'est de faire aussi de la pédagogie avec les gens. Parce que pour que les choses évoluent, ça ne peut pas se faire que depuis notre part. C'est aussi c'est notre place, et c'est aussi celle de la clientèle et des gens. Et sans parler forcément de commerçants et de clients, on est tous des gens, quoi. Et il n'y a que en parlant et en s'expliquant les choses que. Voilà. C'est ça.
Merci, bon courage.
Allez en bibliothèque, allez en librairie indépendante.
Soutenez vos libraires indépendants.
Soutenez les maisons d'édition indépendantes, soutenez la Divergence, soutenez la Découverte, Agone, la Ville Brûle.
Shed, très important de soutenir Shed. Et si vous travaillez en librairie, n'oubliez pas que la forme de coopérative ouvrière est possible. Il est possible de se passer de patron, c'est difficile mais c'est faisable, ça existe. Et ça permet d'avoir encore plus la main sur qu'est-ce qu'on veut proposer dans la librairie, qu'est-ce qu'on veut proposer comme assortiment sur les tables, etc. Qui on veut inviter, quelles rencontres on veut faire pour créer encore plus de liens.
Moi, je suis très émue parce qu'en fait, peut-être encore davantage ma génération à moi, on a dit le papier c'est fini. Et en fait, c'est pas du tout fini.
Je pense qu'on a des discours alarmistes un peu même sur ce qui se passe en ce moment. Enfin, évidemment, ça fait peur. Mais en fait, il n'y a que quand on fait des choses pour que ça change qu'on se rend compte que oui, il y a un fascisme qui monte et ça fait très peur. Mais on peut se battre contre et on a des outils pour. Donc c'est important de s'en rappeler.
Et je pense pense que le livre n'est pas fini aussi parce que quand on avait ce discours-là, c'était aussi parce qu'il y avait les débuts d'Internet. Mais Internet, il n'est pas périn non plus. Il y a des pages entières de Wikipédia qui sont supprimées. Il y a des journaux qui se perdent sur Internet. Il y a des sites de streaming qui suppriment leurs séries queer, antifascistes, antiracistes et qui en fait n'existent plus après parce qu'elles existaient uniquement sur Internet. Notamment avant, on éditait des DVD et du coup, bah, il y avait toujours une archive de ces médias-là audiovisuels. Et sauf que là, avec les plateformes de streaming, bah, il y a tout ce problème-là. Donc je pense que non, le livre papier n'est pas mort et qu'il faut continuer de l'acheter, de le transmettre et de l'archiver. L'archivage, c'est juste trop important.
Moi, j'en suis convaincue aussi. Hein. Et puis en plus, le mot d'ordre de Débordé Bolloré, c'est la dispersion. Et en fait, ça donne toutes les alternatives et les tentatives de s'organiser autrement que tu décrivais. Et... Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Parce que j'ai cru comprendre que c'était la parole errante et la librairie de la parole errante, n'est-ce pas ?
Non, c'est pas la librairie de la parole errante. Mais dis-moi, tu es pourquoi ?
Alors moi, je suis cause commune.
D'accord, ok.
93.fm, on est un média indépendant.
Bien, bien, tu vois.
Tu connais ?
Ouais, je vois.
Ah, génial, alors c'est bon, je t'explique pas. Et pour
nos auditeurs, c'est ben voilà, si tu peux... j'ai essayé d'enregistrer, c'est...
On s'entend, c'était compliqué.
C'était pas facile, donc...
Désolé.
Sans tout répéter, si tu veux,
bien
synthétiser
sûr.
Le message.
Donc en gros, donc moi c'est Yann, je suis membre du Book Bloc, et on organise ce rassemblement en lien avec les dernières répressions judiciaires autour de Violette & Co et les attaques fascistes, médiatisées ou non, qu'il y a eu en librairie depuis le 7 octobre 2023, récemment, mais pour ramener un prisme de réponse politique dans la rue antifasciste. Et dans ce cadre-là, on met en place différents types d'actions, certaines médiatisées. On fait un appel à témoignages, notamment pour que les libraires et autres professionnels du livre isolés puissent venir nous voir et avoir du soutien. Il y a eu plusieurs cas là sur les dernières semaines de libraires harcelés en ligne, menacés physiquement et où leur patron n'a pas eu de réponse adaptée et où nous on s'est mobilisés pour offrir une écoute, être en soutien s'il fallait, et ça a été le cas là plus médiatiquement avec Violette & Co. Et dans ce cadre là nous en parallèle on travaille avec Culture en Lutte pour des rencontres qu'il y a le week-end prochain à la Parole Errante, avec une table ronde à 14h30 le dimanche autour des violences en librairie et comment y répondre. Avec
parce que, excuse-moi, je te coupe, mais pour les auditeuristes, en fait, la problématique, l'appel à témoignage, c'est que, bon, voilà, chez Violette & Co, c'est une association, elles sont militantes, activistes, LGBT... QI+, voilà, elles, c'est pas qu'elles ont l'habitude, mais elles ont les outils pour réagir. Et simplement pour expliquer aux auditoristes qu'il y a, quand on dit qu'il y a plein de libraires qui sont dans l'agression, dans certaines violences, elles sont pas du tout médiatisées et même silenciées par éventuellement les patrons ou les libraires eux-mêmes qui veulent pas que ça s'ébruite, quoi.
C'est ça, parce que il y a déjà une peur globale de perdre son emploi, on se retrouve face à une clientèle agressive, à des patrons pas soutenants, et surtout on n'a pas les outils, on n'a pas les clés, parce que malheureusement la montée du fascisme et de ses idées met face à un mur. Et quand on est seul, souvent personnes précaires, ça peut être des personnes racisées ou étant de minorités de genre qui se retrouvent très souvent ciblées, notamment sur les questions politiques et d'actualité. Typiquement, on peut citer les dernières sorties, on va dire, du Sarkozy ou du Bardella en librairie, et où des libraires choix de leur assortiment qui leur appartient parce que ça reste leur rayon, décident de pas le faire entrer ou de pas le valoriser, et ça s'entend parce qu'on veut pas donner de sous à des connards, pardon, et excusez-moi les auditeurs, et pour le coup ils se retrouvent confrontés à des violences directes et des menaces à base de vous êtes des woke, on va faire tourner autour de nous, des appels menaçants comme il y a pu en avoir à Violette & Co, et parfois même des actions où des libraires se font poursuivre dans la rue tout simplement par leur clientèle. Et on arrive à ce point là on se dit mais en fait c'est pas possible, et ces gens là sont complètement esselés. Et on essaye de les accompagner bon gré mal gré, et surtout d'offrir un espace d'ouverture. On ne demande pas une mobilisation complète et intense parce que ça reste compliqué de se mobiliser, de trouver du temps avec le travail, les études en parallèle, mais juste d'avoir un espace où on est entendu et on peut offrir une réponse collective. Voilà.
Il y a une chasse aux libraires, quoi.
Alors, il n'y a pas une chasse aux libraires, mais il y a un contexte non, compliqué.
On peut
en fait, on peut dire, rien que dans ce prisme-là, que globalement, la entre guillemets, chasse aux libraires n'a jamais cessé,
parce que c'est ce que je disais au début de mon intervention tout à l'heure, mais historiquement, les librairies ont toujours été dans le prisme de la répression judiciaire ou des attaques fascistes, notamment durant la guerre d'Algérie, il y avait des perquisitions toutes les semaines dans certaines librairies, des livres censurés, il y a eu des attaques à coup de... Voilà, il y a eu...
Elles sont... Enfin, je sais pas si thermomètre, c'est le bon mot, mais...
Ouais, bah, vu que c'est globalement une enseigne culturelle et qui se fait attaquer pour ses positionnements, comme le monde de la musique ou du théâtre ou du cinéma se fait attaquer. Et dans ce cadre-là, vu qu'on a un lieu physique et incarné, et donc pour les gens, il y a vraiment l'image du libraire de par l'image qu'on en a autour d'une personne cultivée, souvent estimée dans la société. On croit qu'on est tous et toutes riches, alors que pas du tout. On est les petits bouts de la chaîne maxi précaire, et les gens s'autorisent de plus en plus à faire preuve de violence et à ne pas considérer l'être humain en face de soi. Et donc voilà, en fait, cette chasse aux libraires, elle a toujours existé, et on se rend compte que depuis bientôt 3 ans, suite à la montée du Front National notamment, et à la libre expression de ces idées-là rances et qui ne devraient pas avoir de porte-parole, etc., dans la presse, les médias, et aussi dans notre milieu, malheureusement. Parce qu'il y a des grands groupes d'éditeurs qui sont contrôlés par des milliardaires qui ont un projet politique. On pense à Bolloré, on pense à d'autres, Sterrin, Krasinski, voilà. Et où en fait, dans une sorte de... On ferme les yeux car il y a des gros enjeux économiques. La chaîne ne sait pas répondre à ces problématiques-là. Et on se rend...
Je travaille pour une radio bénévolement qui s'appelle Cause Commune, vous la connaissez ou...
Pas du tout.
Ok, c'est un média indépendant qui est dans le 18e. Et on a une émission qui s'appelle La Place aux gens. C'est une rubrique dans laquelle une intervention comme ce soir peut apparaître. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose? Pourquoi vous êtes là? Qui vous êtes par rapport à la situation? Des libraires, des clients, des lecteurs
Vous êtes un média de gauche?
Je pense. Je suis pas toute seule, hein. On est une trentaine, une quarantaine de bénévoles, mais oui, je pense que ça devient de plus en plus clair. Mais après, de gauche, voilà, enfin, après, il faut préciser peut-être pour vous. Mais,
si vous avez une question, je peux répondre.
En fait, pourquoi vous êtes là, tout simplement, et est-ce que vous êtes directement touché, c'est-à-dire quel est le statut dans lequel vous êtes là éventuellement?
Moi, je suis libraire. Donc ce qui s'est passé à Violette & Co, ça nous a tous beaucoup touchés. Et donc c'était important d'être là pour... Non, pas chez Violette & Co, une librairie à Paris.
D'accord.
Et donc c'était important d'être là en soutien, montrer aussi que c'est des violences qui montrent le traitement aussi qui est fait du génocide à Gaza. Et qu'un petit coloriage, ça prenne des proportions aussi énormes, ça montre à quel point... Des centaines de vies, des milliers de vies perdues toutes les semaines, tous les jours. On ne peut pas en parler parce que juste un coloriage, déjà, la police intervient, quoi.
Et bon, il y a eu plusieurs perquisitions. Il y a eu aussi, je crois, peut-être vous avez participé à ça, des rassemblements concernant des baisses budgétaires.
Je ne sais pas si je vais être très à l'aise pour répondre à plus de questions parce que je maîtrise.
Ok, d'accord.
Tenir la lutte contre le génocide à Gaza avant tout. C'est ça le plus important.
Okay. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter
Non, rien à ajouter. Enfin, je suis dans la même situation que ma collègue libraire. Et moi, j'étais déjà présent en novembre pour le premier rassemblement de libraires par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza et aussi les attaques et les violences que nous avons subies en librairie. Donc, je pense qu'elle a bien résumé notre présence ce soir. Donc, non, j'ai rien de plus à ajouter.
Et dans l'ambiance ça crée une tension. Moi, je connais bien Violette & Co. J'ai été pour la radio enregistrer des émissions. Et en fait, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait de plus en plus de pression depuis le tagage de la vitrine. C'est monté en... Oui, ça fait comme une escalade. Est-ce que vous, dans votre profession de libraire, vous sentez que ça va vite, là, le changement d'atmosphère de... Je sais pas, peut-être dans une journée
C'est compliqué. Je sais pas si c'est un peu. En fait, je pense qu'il y a.
Ma question, c'est peut-être pour que les auditeuristes se rendent compte un peu de comment ça peut prendre forme en fait dans un quotidien en fait ça. Est-ce que c'est déjà ça?
déjà au niveau des livres qui sont édités, en fait.
Voilà, et au niveau de comment notamment l'agenda Bolloré s'inscrit dans les librairies au jour le jour, et c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain que les clients ne voient pas forcément. Et Violette & Co, ça montre ce truc que nous on voit monter depuis longtemps. Et au-delà de ça, l'interdiction de parler du génocide, et au-delà de ça, par exemple, la proposition de loi qui a été discutée aujourd'hui à l'Assemblée, elle est scandaleuse. Les phrases qui veulent interdire, ça montre que on n'a pas le droit de parler de la Palestine. Et ça, c'est grave. Nous, on vient en tant que libraire aujourd'hui, mais c'est juste grave de manière générale pour tout le monde. Ne pas pouvoir parler d'un génocide, c'est participer.
Ça, je pense que, en fait, ça commence aussi par une polarisation dans le secteur éditorial, avec effectivement l'agenda Bolloré, la présence omniprésente aussi des catalogues et de ce qui est proposé en librairie et tout ça, donc où ça devient, enfin, c'est très compliqué aussi. Et oui, effectivement, la loi Yadan, là, il y a beaucoup de choses, en fait, mais c'est une polarisation qui se contacte déjà dans le catalogue des livres qui sont présentés aux libraires et qui est conjointe à une polarisation des médias.
Alors, vous appelez ça l'agenda Bolloré, concrètement ? Pourquoi vous appelez ça l'agenda Bolloré ?
Bah, concrètement, c'est...
Il y a un plan d'action, c'est une stratégie.
Oui, il y a clairement, je pense, une stratégie derrière, effectivement, avec... La plus flagrante, ça va être... Enfin, Bolloré, c'est un gros rachat d'un gros groupe éditorial, donc le groupe Hachette, mais... bien sûr, on va penser à Fayard avec les livres de Bardella, Sarkozy et tout ça, mais c'est tout un catalogue et aussi d'autres éditeurs. Et en fait, c'est une polarisation qui est de plus en plus marquée. Mais c'est le groupe Bolloré, c'est le groupe de Sternin, c'est plein de groupes, en fait. C'est des milliardaires qui possèdent, en fait, une grande partie justement de ces médias-là, et notamment dans le secteur éditorial, et qui s'en servent à des fins clairement de propagande. Donc oui.
Donc voilà, juste pour moi, j'ai eu plein d'échos, hein, comme ça, que la présentation des livres, de gens, même de gens qui s'interrogent à savoir si c'est une pression, si c'est le choix du libraire, si c'est je sais pas, j'ai entendu là récemment quelqu'un qui disait à la Fnac de Lyon, il y avait plus que des trucs hallucinants. Qui est-ce qui choisit d'afficher ça? Mais ça veut dire que dans l'agenda Bolloré, on est déjà vraiment sur le contenu. Le contenu est déjà clairement orienté, on va dire.
Ah oui, je pense qu'il y a, rien n'est caché, c'est très très assumé, au contraire. Après, les questions de choix et de politique d'achat des librairies sont très dépendantes d'une librairie à une autre. Effectivement, des librairies indépendantes vont avoir beaucoup plus de liberté, surtout quand il n'y a pas de patron derrière et que c'est les propriétaires et que c'est des petites équipes et tout ça directement qui puissent faire le choix. Mais effectivement, dans des GSS, Fnac, Cultura et tout ça, là, les questions de politique d'achat sont pas forcément je pense que la camarade de la CGT et de Sud Culture l'ont très bien expliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pressions aussi qui s'exercent aussi, que ce soit de la part du patronat et tout ça. Donc c'est difficile de pour certains de passer au travers.
Et vous avez lu Débordé Bolloré, j'imagine?
Oui, bien sûr.
Voilà, bon, j'en ai parlé moi un peu sur Cause Commune, et c'est vrai que je le recommande encore là aux éditoristes parce que c'est plein d'articles très différents et qui montrent en fait justement tout l'éventail, tout ce que ça touche en fait, y compris dans l'édition en Afrique, y compris c'est dans une perspective coloniale, dans une perspective de propagande, mais aussi tous les différentes couches de la fabrication du livre.
Juste faire un petit lien avec ce qui est en train de se passer, c'est pas anodin que d'un côté Némésis et Louis Vuitton, ils essayent de prendre d'assaut nos manifestations féministes, et que ce soit Violette & Co qui soit à l'avant-poste aussi de subir ces attaques-là, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi en fait un fémonationaliste complètement raciste, un homonationaliste complètement raciste et islamophobe qui essaye de s'abattre, et une LGBT-phobie qui est assez impressionnante et qui se met de se démultiplier, notamment au travers des groupes fachos qui attaquent notamment les mobilisations des personnes trans, etc. Et que c'est une mobilisation qui est super importante et qu'il ne faut pas laisser les fachos et les sionistes envahir nos espaces militants. Déjà qu'il ne faudrait pas qu'ils envahissent nos rues, mais il ne faut certainement pas qu'ils envahissent nos manifestations. Et donc je vous invite à participer aux actions qui auront lieu le 8 mars pour empêcher le défilé des fachos et des sionistes dans nos manifestations, et que nos manifestations féministes, elles soient aussi antiracistes, elles soient aussi antifascistes. Et ça me semble essentiel dans les luttes qui s'approchent, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe avec la ICE. En fait, on ne peut pas laisser les fachos et les sionistes manifester avec nous. Et il faut s'organiser tout de suite et maintenant face au fascisme et face aux sionistes. Donc je vous invite à suivre un peu ce qui va se profiler autour du 8 mars et à vous organiser et à voir aussi qu'est-ce qu'on fera nous en tant que libraires. Et je pense que c'est un truc qu'il faudra qu'on discute à l'AG dimanche, de savoir qu'est-ce qu'on fait le 8 mars. Est-ce qu'on s'organise avec celles et ceux qui vont s'opposer à la présence des fachos et des sionistes? Donc voilà.
Et donc pour rappel, ce week-end à la Parole Errante, samedi et dimanche, il y a plusieurs tables rondes autour des dangers et de ce qu'on subit dans le milieu de la culture. Et notamment dimanche, nous, libraires, antifascistes, antisionistes, on organise une table autour des violences en librairie, suivie d'une AG, des acteurs actifs du milieu du livre. Plus on est nombreux, nombreuses, plus déjà on va s'amuser, ça va être super fun, et surtout on va pouvoir structurer une pensée politique ensemble, une réponse adaptée dans la rue. Donc merci à vous et venez autant que vous pouvez dimanche.
C'est à 14h30 à la Parole Errante.
14h30, pardon.
La Parole Errante à Montreuil.
Avec Gaza, face au sionisme, on s'aimera pas, les libraires.